من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous sommes toujours en train de parler de Sulh al-Hudaybiyah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé donc de faire Umrah, et que pendant Quraysh ne voulait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse cette Umrah, et ils l'ont empêché de faire la Umrah par tous les moyens. Ils ne veulent pas que 1400 musulmans entrent comme ça en force à la Mecque, parce que c'est quand même beaucoup de musulmans, et ils ne veulent pas que l'islam soit visible, hein, comme un peu partout, à la Mecque. Ils veulent imposer leurs conditions. Donc le prophète, ils ont envoyé, comme on l'a vu ensemble, quatre émissaires, quatre personnes pour négocier. Mais Quraysh, en réalité, ne veut pas des négociations, elle veut imposer des choses. Elle ne veut pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam négocie avec eux, ils veulent imposer des choses. Et dans leur tête, il y a une décision qui est déjà prise: impossible que les musulmans fassent la Umrah cette année. Pour eux, c'est une condition sine qua non. Leur condition principale, c'est que vous revenez à Médine. Cette année, il n'y a pas de Umrah. Et ça, c'était quelque chose qui était inimaginable pour les compagnons. Donc, ils ont envoyé le dernier, l'avant-dernier émissaire de Quraysh, le négociateur qu'on a, Urwa, qui est venu et qui a négocié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il était un peu impoli avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il touchait la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam: tu crois que tu vas résister à la force que les Mécois t'ont préparée? Je suis certain que ces personnes-là autour de toi, ils vont tous se disperser.
Ils te laisseront tout seul. Abu Bakr, ça l'a tellement énervé. Nous, on va le laisser tout seul. Sallallahu alayhi wa sallam, il l'a insulté. Et donc, Urwa ibn Zubayr, avant de partir, il a observé le comportement des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le prophète. Il voyait comment il faisait. Il voyait que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions, ben, il est entouré par les compagnons. Aucune goutte d'eau ne tombe par terre. Aucune goutte d'eau ne tombe par terre. Hein? Les compagnons avaient leurs mains sous les membres du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir la bénédiction, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a déjà vu ensemble, kulluhu tahir, kulluhu, tout ce qu'il y a dans le prophète, c'est pur. Nous, on a des impuretés humaines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas d'impureté sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que même sur, hein, l'eau qui tombe de nos ablutions, on l'appelle sur, sur. Donc sur le main, quand ça tombe, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur'ruhu tahir. Donc les gens, ils prennent du sur' du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'essuyer le visage et ils considéraient ça comme une bénédiction. Il n'y a pas un poil du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui tombe par terre, les compagnons le remarquent, ben ils vont le prendre avec eux. Jusqu'au point que la majorité des compagnons avaient, même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques poils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu. Et les compagnons, les autres, qu'est-ce qu'ils disaient à leurs enfants? Quand tu vas m'enterrer, prends ces poils et je veux que tu m'enterres avec les poils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Tout ça, c'est l'amour qu'ils avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils aimaient tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Urwa, il est revenu à Quraysh, il leur a dit, mais qu'est-ce que... J'ai visité les moulouks, j'ai regardé les rois, j'ai vu les grands de ce monde, mais je n'ai jamais vu des gens qui aiment quelqu'un, leur chef, comme les musulmans aiment Mohammed. Je vous conseille de le laisser tranquille, parce que s'ils vous attaquent, ils sont 1400. Je ne crois, ils n'ont que les effets. Mais je ne crois pas que quelqu'un parmi eux va mourir sans tuer deux ou trois parmi vous. Et donc ça serait un carnage. Vous n'aurez plus de mecs, vous n'aurez plus d'hommes à la Mecque. Donc je vous conseille de le laisser. S'il est vainqueur, laissez-le faire la Umrah. Vous n'avez jamais empêché les gens de faire la Umrah. Pourquoi lui vous l'empêchez de faire la Umrah? Donc c'était... Mais ils lui ont dit, ah, toi aussi, tu es tombé dans les...
Le piège.
Le piège de... Toi aussi, tu en fais partie. Exactement. Donc ils avaient une idée derrière la tête, les Mikos. Malgré que Abu Jahl n'est pas encore... Il est parti, Abu Jahl. Il n'y a plus d'Abu Jahl là maintenant. Abu Jahl, il est mort pendant la bataille de Badr. Mais il a laissé ses petits. Des petits Abu Jahl, de Abu Sufyan et les autres. Donc, Quraysh, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie 40 jeunes sur des chevaux, 40 cavaliers, à aller autour des musulmans pour les provoquer. Pour que les musulmans commencent. Et eux, ils auraient une occasion pour les attaquer. Mais les musulmans, ils ont attrapé ces 40 jeunes, ils les ont attrapés. Et ils auraient pu les tuer, ils auraient pu faire... Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne les touchez surtout pas. Et à renvoyer tels qu'ils sont à la Mecque. Ils les ont renvoyés, enchaînés à la Mecque. Regardez, on n'est pas venu pour faire la guerre. Donc c'est un signal en plus envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire, nous ne sommes pas venus pour faire la guerre. Hein, sinon, on a la possibilité de les maintenir, de les garder chez nous. Alors, subhanallah, regardez, Quraysh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un compagnon pour essayer d'expliquer à Quraysh ce qu'il veut. Ils ont tué sa chamelle, ils l'ont frappé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais touché à un de leurs émissaires, aucun. Quand ils arrivent, ils rentrent, ils arrivent directement chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils repartent, personne ne les touche. Alors il a envoyé un seul, et ils l'ont traité, ils l'ont insulté, ils l'ont frappé, ils ont tué sa chamelle. Ils l'ont frappé. Donc c'était Allah subhanahu wa ta'ala parle de ça. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ. Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans Sulh al-Hudaybiyah, quelle sourate il faut lire? Quelle sourate? Quelle sourate va commenter sur le Hudaybiyah? Barakallahu fik. Sourate al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Subhanallah. Subhanallah, tu dis comment ça se fait? Allah dit Inna fatahna laka fathan mubina. Tout le monde croit que ce fath, Allah parle de fathu
Mecca.
Mecca. Badr, c'est bien là. Allah a révélé cette sourate, mais quand tu lis la sourate, tu dis Allah parle de fathu Mecca. Parce que le fath, la grande conquête. Mais Allah ne parle pas de fathu Mecca. Subhanallah. Allah parle de ça, de ce pacte là. Fathan mubina, c'est quoi le fath?
Victoire.
Victoire. Conquête. Grande victoire. En fait, al-mubin, al-mubin c'est quoi? Évident, clair. Inna fatahna laka fathan mubina. Allah parle de quoi là? Allah parle de sulhul hudaybiyya. C'est ce qu'on est en train d'étudier ensemble. Hein? Le commentaire coranique de cet événement, c'est Sourate al-Fath. Lisez Sourate al-Fath et tous les versets qu'on va citer sont dans Sourate al-Fath. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. C'est quoi الحمية؟ حمية. C'est l'arrogance. Hein? C'est le fait de se d'être avec sa tribu, même si on sait que sa tribu est injuste. Hein? Tu sais, c'est ton cousin ou c'est ton ami, tu vas être حمية parce que il fait partie de ta famille, il est injuste, et tu sais qu'il est injuste, mais par hamiya. Hamiya, c'est quoi? Yahmi, c'est quoi yahmi?
Protège.
Protège. Yahmi, c'est protège. D'accord? Hamiya, c'est je protège mon proche, même si je sais qu'il est injuste. On appelle ça hamiya, et Allah dit hamiya al-jahiliya. Hamiya al-jahiliya, c'est quoi? Parce que les Arabes, avant l'islam, ils avaient cette hamiya. Quand tu vois deux personnes se battre, tu ne te poses même pas la question qui a tort, qui a raison. Tu vas attaquer tout de suite la personne qui n'est pas de ta famille. Tout de suite. C'est ça. Les Mekwa avaient Hamiyat al-Jahiliya. Cette Hamiyat al-Jahiliya, elle existait chez tous les Arabes. Il y a un poème qui dit, poète qui dit « Wa ma ana illa min ghuzayyat in ghawat » Rawaitu wa in tarshud ghuzayyata arshudi. Regardez là, le summum de l'ignorance. Wa ma ana illa min ghuzayya. Et moi je suis un homme de ghuzayya. Ghuzayya c'est une tribu. In rawat. Si ghuzayya est injuste, rawaitu. Moi aussi je suis injuste. Wa in tarshud ghuzayyata arshudi. Et si ghuzayya est juste, je suis juste. C'est-à-dire que j'ai pas de repère. Mon repère, c'est ma tribu. Si ma tribu est bonne, elle fait des choses bonnes, je fais des choses bonnes. Mais si ma tribu fait des mauvaises choses, je ne suis qu'un élément de ma tribu. Et ça, c'est pas une bonne chose. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons un jour, il leur a dit, regardez comment, il leur a dit, « Onsur akhaka zalimen ou maghlouman » Il dit, tu dois soutenir ton frère. Zaliman. Zaliman, c'est quoi? Injuste. Ou mazlouman.
Il subit une injustice.
Il subit une injustice. Zalim, c'est lui qui fait une injustice. Mazloum, c'est celui qui
subit
l'injustice. D'accord? Être injuste, subir une injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, tu dois soutenir ton frère, qu'il soit zalim ou mazloum. Et regardez la réaction des compagnons. Ya Rasulallah. Ça, c'est l'éducation prophétique. C'est pas l'éducation de l'Jahiliya, parce que ça, dans l'Jahiliya, c'est comme ça. Tu dois soutenir. Les compagnons, ils ont demandé, Ya Rasulallah, ansuruhu in kana mazlouman. Quand il est injustement traité, quand il subit une injustice, c'est normal que je le... Mais kayf ansuruhu in kana zaliman? Comment je peux le soutenir alors qu'il est injuste? Qala. Ta'khudhu ala yadayhi. Tu l'empêches d'être injuste. Tu l'empêches. Précise. Et c'est comme ça que tu dois le soutenir. Soutenir ton frère, c'est pas être toujours de son côté. C'est aussi de se faire face à ton frère quand il est injuste. Tu te mets devant lui, il est injustice. Non, mon frère, tu es injuste. Ça, c'est pas simple. Hein? C'est pas simple quand on est en famille, c'est pour sa propre famille, son propre frère, sa propre maman, son propre père qui est injuste. et tu dis non mon père, tu es injuste sur ce point là. Mon, non mon frère, oui.
Cher Abdullah, il faut être juste même si c'est envers tes parents.
Exactement, tout à fait. Avec politesse.
Avec
les parents, ils ont un cas particulier. وَخْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Tu dois être humilié. Même l'humilité, Allah ne demande jamais l'humilité pour un musulman. Jamais. Mais devant tes parents, l'humilité. C'est même pas un autre terme. Humilité. Tu dois être en position d'humilité. Juste, mais humilité devant les parents. C'est-à-dire que ton père ne doit pas... Tu dois lui dire les choses. Il y a Abati. Regarde, Ibrahim, comment il s'adresse à son père. L'homme le plus injuste, qui est Ya Abati. Inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika. Il lui a pas dit je suis plus savant que toi. Non. On m'a donné de la science quelque chose que tu n'as pas encore. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya Abati, la ta'bud ash-shaytan. Inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiyya. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Regardez comment يا أبتي avec le mot le plus doux. Et son père qu'est-ce qu'il dit? يا إبراهيم لا إن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. Oh Ibrahim, c'est ni يا ابني ni يا إبراهيم. Donc الحمية c'est ça. En islam on soutient son frère. Mais comment on soutient son frère? En l'empêchant d'être injuste. Regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à transformer complètement des gens. C'était des gens qui croyaient vraiment jahiliya, hamiyat al-jahiliya. Pour eux, les repères, c'était ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a transformés. Ils lui ont dit, non, ya Rasulallah, comment je réponds? Ben, c'était à la fois un test. Le professeur Hassan, à la fois, il les a testés. C'était un petit examen. Est-ce que son éducation a fonctionné ou pas?
C'est juste.
Ouais. Et il a remarqué que ses compagnons étaient des gens extraordinaires parce qu'ils ont compris les leçons. Et le professeur Hassan n'a jamais cessé de leur donner les leçons, sallallahu alayhi wa sallam. Il ja'ala alladhina kafaru. في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. Donc ils sont venus pour provoquer par hamia et hamia de jahiliya. Jahiliya c'est la période d'ignorance, c'est avant l'islam. فأنزل الله سكينته. Allah a fait descendre السكينه. C'est quoi السكينه? La sérénité, la tranquillité, la quiétude. Anzal Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Ah, pas de provocation. Allez, on n'est pas venu pour ça. On est venu pour quelque chose de plus. Ces 40 jeunes commencent à jouer devant eux, provoquer. Ne faites rien. Retirez-vous. Revenez. Faites rien. وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى la bonne parole وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Quraysh, donc les émissaires de Quraysh viennent, repartent, provoquent, insultent, personne ne leur dit rien. Ils viennent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors comme on a dit, Kharrash ibn Umayya radiallahu anhu, il a failli être tué. Si ce n'est l'Ahabish, certaines tribus qui le connaissaient, qui l'ont protégé. Donc sinon, Quraysh allait le tuer. Et pourquoi? Son tort c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé juste pour dire, ya Quraysh, je ne suis pas venu pour faire la guerre. Ben ils ont tué sa chamelle. Et ils ont failli le tuer.
C'était méchant.
Ah, ben c'est. Bien sûr, subhanallah. Alors que. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Sourate al-Fath, toujours, versets 22-23. سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Allah dit que si les Mécois, s'il y a eu une guerre pendant cette période, les Mécois seraient perdants. Ils auraient perdu cette guerre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala veut quelque chose de plus grand pour les musulmans. Vous allez voir par la suite. Il veut quelque chose de plus grand, c'est Mecca. Pourquoi ? Parce que s'il y a eu, imaginons qu'il y a eu une guerre. S'il y a eu une guerre, ben, il y aurait au moins des centaines et des centaines de morts. Parce que tu as des gens, 1400 musulmans quand même, 1400 hommes, ils peuvent tuer, on va dire 1400. Et donc, il y aurait un carnage. Et le prophète Hassan ne veut pas ça. Souvenez-vous de Al-Qaswa, la chamelle. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Qu'est-ce qu'a fait la chamelle ? Elle s'est arrêtée. Et quand les compagnons ils ont dit « Ah, la chamelle, elle est fatiguée, elle est paresseuse », le professeur Hassan dit « Non, elle n'est ni fatiguée ni paresseuse. »« Habasaha, habisu, elle, fil. »« Habasaha, habisu, fil. » Elle s'est arrêtée pour la même raison que l'éléphant de Abraha. L'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abraha a voulu détruire la Kaaba. Il est venu avec une armée, et à la tête de cette armée, Fil, Mahmoud, il s'appelait Mahmoud, un éléphant. Il voulait détruire la Kaaba. L'éléphant est venu du Yémen jusqu'à la Mecque, mais arrivé à la frontière de lieu sacré, il s'arrête. Il le pousse, il le frappe, ils ont tout fait. Il avait même un maître. Le maître, il le connaissait très bien. Il connaissait son éléphant. C'est lui qui l'a éduqué pendant des années, l'a dressé pendant des années. Mais il ne comprenait absolument rien. Le fil s'arrête d'un seul coup. Il dit, j'avance pas. Avancez-vous, mais moi j'avance pas. Et la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivée, c'est pas le même endroit. Le fil il est arrivé de sud, alors que la chamelle est arrivée du nord. D'accord ? Mais en avançant, tac, il y a un endroit où la chamelle s'arrête. Les animaux sentent que là, ils sont à côté du lieu sacré. Donc, elle s'arrête immédiatement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris pourquoi elle s'est arrêtée. A compris que c'est un message d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui dit, fais attention, tu rentres dans un lieu sacré. Ne sois pas injuste, ne sois pas provocateur. D'accord ? Et accepte les conditions des Mécois. Vous allez voir que par la suite, ça va être quelque chose de très très dur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc décide d'envoyer quelqu'un, un Mécois, un grand de la Mecque, pour négocier. Il dit, Omar, prépare-toi pour aller voir les Mécois pour discuter avec eux. Omar, il dit, ya Rasulallah, je ne suis pas la bonne personne, ya Rasulallah. Regardez comment le prophète prend en considération. Je ne suis pas la bonne personne. Je sais que Quraysh me déteste. Je sais que Quraysh, j'ai tellement fait de choses contre Quraysh. Je suis quelqu'un qui dit la vérité, qui dit les choses d'une manière claire. Je sais que Quraysh ne m'aime pas. Et je ne serai pas un bon négociateur avec eux. Je me connais. Chacun sait ses limites. Il connaît ses limites. Ça, c'est très très bonne chose. Une très bonne qualité chez l'homme qui connaît ses limites. Moi, je suis bien ici, je sais faire. Mais là, excusez-moi, je ne sais pas faire. Nous, on sait tout faire. Pas des gens qui savent tout faire. Alhamdoulilah. Donc il faut être modeste, il faut accepter sa faiblesse. Ça je sais faire, ça je ne sais pas faire. Et ça c'est quelque chose de formidable chez un homme, de connaître ses limites. Donc, moi, il dit à Rasulallah, c'est pas moi la bonne personne. Mais, Othman a la sagesse, a la reconnaissance, a la famille aussi, sa famille, des gens de sa famille qui ne sont pas musulmans. D'accord ? Beaucoup. Plus que moi. Et Uthman, c'est un homme doux, par nature. Dhunnurayn. Riche aussi. C'est peut-être aussi ça. Donc, le professeur Hassan lui dit, oui, tu as raison. Aïe, Uthman, prépare-toi pour aller négocier avec eux. Othman radiallahu anhu, donc, il se prépare. Mais quand il entre à la Mecque, avant d'entrer, avec tous les précédents, il s'est dit, je me protège. Oui. Abou Bakr, il a la sagesse, c'est vrai qu'il est aimé, mais à mon avis, le point le plus important chez Othman, c'est le clan. Quraysh marche beaucoup avec les clans. Et Othman avait un clan très important, des gens qui ne sont pas musulmans et qui sont de la tribu de Othman. Et chez les Quraishites, tu ne peux pas toucher à quelqu'un, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, Hamiyyat al-Jahiliyyah, ils ne sont pas d'accord avec lui, mais il le protège. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait Othman. Il a utilisé il demande à Ibn Sa'id ibn al-As, son cousin. Il lui dit, je viens, tu me protèges. On appelle ça al-jiwar. Yadkhulu fi jiwari ahad. C'est quoi al-jiwar? Si je demande la permission, je demande à quelqu'un, je rentre, mais sous ta protection. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il va sortir devant la Mecque, devant la Kaaba, et il dit, un tel va venir, il est sous ma protection. Celui qui le touche, me touche. Hein? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait une fois. Quand il est parti à Taif, vous vous souvenez? Il est parti à Taif, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dit, à Taif, peut-être ils vont me croire en moi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé plus du... Au contraire, pire que la Mecque. Il revient à la Mecque, mais il ne peut pas rentrer à la Mecque. Il a demandé d'être sous la protection de Al-Mut'im ibn Adi. Al-Mut'im ibn Adi, le prophète lui a envoyé un émissaire, lui a dit, je veux rentrer sous ta protection. Al-Mut'im, il a pris ses 10 enfants, hein, armés, il s'est mis devant la Kaaba, il dit, Muhammad, il est à l'extérieur, il va rentrer à la Mecque, sallallahu alayhi wa sallam, sous ma protection, celui qui le touche, me touche. Et là, Quraysh, bien sûr, ne peuvent pas s'attaquer à une tribu de leur tribu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu revenir à la Mecque grâce à Al-Mut'im ibn Adi. Mais il n'a jamais oublié ce service. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais oublié ce service. Il a dit, Mut'im ibn Adi, c'est un homme juste. Malheureusement, il est mort non musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, le jour où il a fait la bataille de Badr, bien après, hein, quelques années après, et il a capturé 70 prisonniers. Et quand il les a vus, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si Al-Mut'im ibn Adi était vivant et qu'il me demande de libérer ces gens-là, je les aurais libérés pour sa parole, pour lui. Vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme shakur. Shakur, c'est quoi? Tu lui fais un service, mais il n'oublie jamais ce service. Et nous, malheureusement, on est ingrat. Tu as des gens qui te font énormément de services, mais c'est un peu la nature humaine. La canoud, inna lisana li rabbihi la canoud. Wa innahu li hubbi al-khayri la shadid. Canoud, c'est quoi canoud? Ingrat. Ingrat, il oublie. Hein, c'est humain. Hein. Tu as tellement de personnes qui t'ont fait du bien. Et tu oublies ce qu'ils t'ont fait. C'est injuste. Normalement, un musulman n'oublie jamais le bien qu'on lui a fait. D'accord? Il n'oublie aussi jamais le mal qu'il a fait. Il se souvient toujours. Attention. C'est pas pour se lamenter. Hein? C'est pas pour toujours. Mais ça, parce que c'est important de ne pas refaire la même chose. C'est important de garder et de ne pas oublier parce que. Bien sûr, Allah te pardonne quand tu reviens à Allah. Allah te pardonne, mais n'oublie pas. Garde ça parce que ça peut être utile pour ta foi, pour augmenter ta foi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie Uthman ibn Affan qui demande la protection de Abban ibn Sa'id ibn al-As. Uthman arrive à la Mecque, il est protégé. Il fait quoi? Donc, l'écoute. Et il a transmis le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le message est simple. Écoutez, nous sommes là pour faire l'armée. Nous ne sommes pas venus pour vous provoquer. Nous ne sommes pas venus pour la guerre. Nous n'avons même pas amené les outils de la guerre. Nous avons amené avec nous Al-Hadi. Hein, regardez. Hein, et ne sont pas venus pour la guerre. Ça, c'est le message principal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quraysh a entendu ce message-là et disait à Uthman, quand il a fini, viens, va vers la Kaaba, fais tawaf, fais ta umra toi, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que Uthman a dit? Est-ce qu'il a accepté?
Non.
Il dit jamais. Moi, je fais la umra sans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez ça, c'est l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment les compagnons étaient disciplinés. Le chef n'est pas là, je ne vais pas prendre l'initiative de faire quelque chose sans que le chef m'autorise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Uthman, il l'a envoyé en tant qu'émissaire. Il ne lui a jamais donné l'autorisation de faire la umra. Et Uthman a tout de suite compris. Hein? Même Uthman ne savait pas que Quraysh allait lui proposer de faire la umra. Il ne savait pas. Mais c'est son éducation qui a parlé. Son éducation. Il a compris que le prophète n'aurait pas aimé. Comment moi, je... Et en tant que soldat, en tant que musulman, je ne fais pas quelque chose qui... Et ça, c'est quelque chose de très, très important dans l'éducation. Parce que les musulmans sont un seul corps. Les musulmans sont un seul corps. D'accord ? Et ce corps, quand il souffre, quand tu as une partie qui souffre, tout le corps souffre. Donc, en tant que musulman, tu ne dois pas être accepté quelque chose au détriment de tes frères. Hein? Toi, tu as un privilège, tu le fais, et au détriment des autres. D'accord ? C'est pour cette raison d'ailleurs, subhanallah, si on fait un peu le parallèle, c'est pour cette raison que certains savants musulmans ont dit, par exemple, que les musulmans ne peuvent pas aller visiter la mosquée de Jérusalem aujourd'hui. Pourquoi ? Pourquoi on n'a pas le droit d'aller visiter la mosquée de Jérusalem aujourd'hui ? Hein ? Parce que c'est une mosquée qu'on peut visiter, n'est-ce pas ? Ils te disent, toi, en tant que Français, tu peux demander un visa, on te la donne, tu vas visiter. Mais le Palestinien qui est juste à côté, qui lui, il est là, hein, il est... lui n'a pas le droit d'aller parce qu'on l'empêche, parce qu'il est Palestinien. Et toi, tu viens de Suède ou de France, et tu as le droit d'aller? C'est une injustice. C'est-à-dire que si tu acceptes ça, tu acceptes cette injustice que subissent tes frères. D'autres disent non. D'autres savants disent non, parce que quand tu leur rends visite, il y a quand même des musulmans qui prient dans cette mosquée. Ça peut être un soutien pour eux. Il y a cette divergence. Donc c'est juste pour dire que vous avez certains savants qui ont ce souci de dire, ben, tu ne dois pas être privilégié, tu ne dois pas te considérer privilégié par rapport à certains, à détriment de ton frère qui souffre et qui... Wallahu alam. Bien sûr, ça reste une question de divergence entre les savants. Tu as des savants qui te disent non, il n'y a aucun problème. Au contraire, parce que quand tu vas là-bas, ça va soutenir tes frères, ça va être un soutien pour les gens qui habitent là. Parce qu'il y a quand même des musulmans qui habitent à Jérusalem, qui font la prière tous les jours à Jérusalem. Mais les autres te disent déjà, tu acceptes de rentrer avec un visa et avec une autorisation qui n'est pas carrément juste. Et aussi, tu te considères meilleur que tes frères qui sont juste à côté et qui ne peuvent pas y aller. Oh bah ouais. Donc ça reste. Donc ça me rappelle cette histoire de Uthman ibn Affan qui dit non, je ne fais pas la umra. Je ne fais pas la umra parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne la ferai que avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Vous voulez que je fasse le tawaf? Non, je ne fais pas de tawaf. J'attends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui se passe, c'est que la Mecque contient maintenant beaucoup, beaucoup de familles musulmanes discrètes. Il y a beaucoup, à ce moment-là, quand Uthman est parti, il y avait beaucoup de personnes. D'ailleurs, le Coran, il le dit. وَلَوْلَا رِجَالُ الْمُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مَعَرَّةٌ. Allah, il dit, il y a beaucoup de musulmans à la Mecque, contrairement à ce que vous pensez. Il y a beaucoup de musulmans à la Mecque. Et s'il y a une guerre qui éclate, ben vous allez tuer beaucoup de musulmans. رجال ونساء مؤمنات لم تعلموهم. Vous n'avez pas connaissance. Malgré que y a une règle, et on va en parler. La règle, c'est quoi? C'est que tout musulman, c'était obligatoire. Il faut bien avoir ça en tête. C'était obligatoire pour tout musulman de quitter la Mecque pour aller à Médine. Obligatoire. La hijra était obligatoire. Comme aujourd'hui la prière de l'Isha. La prière de l'Isha était, maintenant, on va la faire obligatoirement, n'est-ce pas? C'est pas un choix. Je vais l'Isha ou non, je vais dormir. Non, c'est obligatoire, n'est-ce pas? La hijra, pour les compagnons, c'était obligatoire. Comme la prière, comme la zakat, comme le signal. Tout musulman qui croit doit tout faire pour quitter la Mecque et quitter n'importe quel endroit pour venir s'installer à Médine.
Avec leur famille?
Toutes, sauf ceux qui ne peuvent pas. Ils sont donc, et sauf l'Abbas. L'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était musulman, mais il cachait son islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'ordre de cacher son islam, de déclarer même la mécréance, par l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
C'est un espion.
Abbas, c'est un espion.
Espion musulman.
Musulman. Bien sûr, oh là là. Le prophète Hassan, c'était un stratège, je crois. Et le prophète Hassan, le jour de Badr, la bataille de Badr entre les musulmans et les Quraishis. Qu'est-ce qu'il a dit aux musulmans? Si quelqu'un voit l'Abbas, l'Abbas, il était dans l'armée des Mécois. Il dit, ne le tue pas l'Abbas. C'est l'ordre du prophète Hassan. D'accord? Certains disent, parce que c'est son oncle.
Oui.
Non, c'est pas parce que c'est son oncle. Parce que c'est un musulman.
Et un soldat.
Hein?
Un soldat.
Exactement. Dans l'autre, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était intelligent. C'est...
Il y en a, ils sont pas immigrés. Il y a des musulmans.
Oui, ouais.
Ils avaient les moyens et tout, mais ils n'ont pas immigré.
Non, ceux qui avaient les moyens, ils ont tous immigré. Mais, généralement, c'est dit soit des vieux, soit... On va le voir tout à l'heure. Hein. Il y en a un qui va le faire, qui va immigrer, il va fuir. Soit des prisonniers, on les a empêchés, enchaînés, soit des femmes et des enfants.
D'accord. Il y en a qui n'ont pas dit non, moi je reste là, je ne migre pas, il n'y en a pas.
À mon avis, si ça existe, ça doit être rare. C'est parce que c'était une alliance avec la...
Attention, parce qu'il y a des musulmans encore, attention.
Oui.
Ne tuez pas s'il y a des musulmans encore.
Oui, exactement.
Vous allez tuer sans vous en apercevoir.
Exactement. Ça, c'est dit dans le Coran. Dans soit qu'un fatigue. Exactement.
Il y en a qui sont pas partis.
Il y en a qui sont pas partis. Alors que c'était obligatoire. Mais Allah donne l'autorisation aux vieillards. Faites hajir ou fiha. Allah dit dans le Coran, sauf ceux qui n'ont aucun moyen. Ça y est. Soit la vieillesse. Soit ils sont enchaînés, soit des femmes et des enfants qui ne peuvent pas y faire. Et même les femmes, il y a des compagnons qui ont voyagé toutes seules, de Médine jusqu'à la Mecque. Alors, il y en a qui l'ont fait, parce que c'était obligatoire. Donc, Athman ibn Affan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité de l'occasion et de la protection pour aller voir quelques familles musulmanes. Il est allé voir des gens chez eux, pour leur donner des nouvelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les informer, pour leur apprendre quelques sourates. Donc, Quraysh a eu vent de ce qu'a fait Uthman. Qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont enchaîné. Et ils l'ont gardé. Ils ne l'ont pas laissé partir. Uthman voulait faire passer son message, dormir une nuit et revenir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne l'ont pas laissé partir. Et ils ne l'ont pas tué, ils n'ont rien fait, mais ils l'ont enchaîné, ils l'ont arrêté. D'accord?
Donc,
oui.
Donc ça veut dire que c'est parce qu'ils visitaient les femmes musulmanes qui ont décidé de le garder?
Oui.
Parce que nous, on a appris qu'ils ont décidé de le garder pour illustrer un peu que c'était eux les plus forts, que c'est eux qui décidaient pour les musulmans.
Oui. À mon avis, il y a plusieurs raisons. À mon avis, ça en fait partie aussi, le fait de dire. On domine, on garde qui on veut, quand on veut, ça fait partie. Mais parmi les choses qui ont incité Quraysh à garder Uthman, c'est qu'Uthman a fait ces rencontres.
En plusieurs jours, il est resté chez
Exactement, il est resté, il est parti voir quelques familles, parce que les familles, les musulmans qui sont musulmans, ils aimaient beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils n'avaient pas d'informations. Ils n'avaient pas d'informations. Et Othman a profité de cette occasion pour aller les visiter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'information qu'il a eue, Othman a été tué. Hein, parce que il n'y a pas de... Uthman a été tué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris, et les musulmans ont appris que Uthman a été tué. Et qu'est-ce qui se passe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là il va se passer quelque chose d'incroyable, que le Coran commente beaucoup. On appelle ça bay'atu al... Non. Ar-Ridwan. Bay'a tour Ridwan. Gardez bien ça, cette. Bay'a, c'est quoi le bay'a? Acte d'allégeance. Hein, tu mets ta main et tu t'engages devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un engagement. Tu donnes un engagement à Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le bay'a. Donc, le bay'a d'une manière générale, acte d'allégeance. Mais bay'a tour Allah, bay'a tour Ridwan, c'était un bay'a qu'on a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à Allah. C'est une bay'a qu'on a donnée à Allah, mais un acte d'allégeance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il, quand il a appris que Uthman a été tué, il a considéré que ça c'est une limite qui a été dépassée et qu'il ne faut pas se taire. Et qu'il faut attaquer la Mecque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend l'engagement de quoi? L'engagement de mourir. Tous les compagnons ont donné engagement au prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre Quraysh jusqu'à la mort. C'est-à-dire que tu ne reviens pas.
L'ahd.
Tu ne reviens pas. C'est-à-dire que tu fonces et tu te fais tuer, tu tues et tu te fais tuer. Il n'y a pas de. Y a pas, tu ne recules pas. C'était ça l'engagement. Le professeur Hassan nous a dit bay'a. Aujourd'hui, personne ne quitte cet endroit-là. Celui qui veut partir, qu'il parte. Maintenant, tout de suite. Mais 1400 personnes ont toutes donné allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas quitter cet endroit sans se venger, sans aller à la Mecque. Ah, donc, et ces personnes sont les meilleures personnes sur Terre. Hein, ses compagnons, 1400, après ceux de Badr. Si on vous dit qui sont les meilleurs compagnons, c'est l'Ashra al-Mubashirin al-Jannah, les 10. D'accord, ça, c'est les meilleurs des meilleurs. Parmi les compagnons, les meilleurs humains, c'est les prophètes. Le meilleur humain, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après lui, il y a tous les prophètes. Et après les prophètes, il y a les compagnons. Abu Bakr Siddiq, Uthman, Omar ibn Khattab, les dix compagnons à qui Allah a promis le paradis. Après ces 10, vous avez 314. Les 314 de la bataille de Badr. C'est les meilleurs. On a la crème, après la crème de la crème, et après la crème de la crème de la crème, d'accord? Les 10, c'est la crème de la crème de la crème. Les 314, c'est la crème de la crème. Et les 1400, c'est les meilleurs compagnons. Les 314, on a leur nom. On a les noms. Et certains ont essayé, même les 1400 personnes, de recenser leur nom. C'est-à-dire qu'on a un livre qui recense les noms de ces personnes-là. Flan, par leur nom. Subhanallah. Et c'est un honneur pour nous de connaître ces gens-là. Si vous visitez le musée à Médine, le musée de la Sira, vous allez au nord, vous avez la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Devant, vous avez un musée sur la Sira. Et vous avez les noms des 314 personnes écrits dans une grande affiche. 314 musulmans qui sont les meilleurs musulmans sur Terre. Et après eux, les 1400 musulmans de Bay'atul Ar-Ridwan. Tous ceux qui ont donné allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit clairement dans le Coran, radiyallahu anhum. Et c'est à partir de là qu'on dit, quand on entend le nom d'un compagnon, qu'est-ce qu'on dit? Radiyallahu anhum. Radiyallahu anhum. Donc, vous avez deux types de compagnons. Nous, on dit radiyallahu anhu d'une manière générale. Radiyallahu anhu, à votre avis, c'est quoi?
une doua.
C'est une doua?
Ah, ça dépend, il y a des, ça fait les deux. C'est une doua ou une affirmation?
Une affirmation, barakallahu fik. Quand je dis radiallahu anhu, Abu Bakr Sadiq, quand je dis radiallahu anhu, est-ce que je suis en train de demander à Allah d'être satisfait de Abu Bakr? Ou est-ce que je suis en train de dire Abu Bakr, Allah est satisfait de lui?
Deuxième.
Oui. Les deux. En réalité, c'est les deux. Mais pour Abu Bakr,
il a dit.
Je suis en train de dire, de confirmer, de donner une information. Parce qu'en arabe, quand tu dis radiallahu anhu, tu as deux manières. Ça peut être une confirmation, une information que je donne, et ça peut être une dua. Si tu dis radiallahu an fulan, un être humain, par exemple ton père, tu peux dire ya Rabbi arda an walidi, ya Allah, pas radiallahu anhu, parce que ça c'est réservé aux compagnons, mais si tu demandes ya Allah, ya Rabbi arda an abi, sois satisfait de mon père. Tu es en train de demander à Allah d'être satisfait de ton père. Mais si tu dis, c'est comme ça qu'on dit radiallahu anhu, ou rahimahullah, allez, on va dire rahimahullah. Abi rahimahullah, mon père rahimahullah. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Allah lui a fait miséricorde ou qu'Allah lui fasse miséricorde? Qu'Allah lui fasse miséricorde. Parce que tu ne sais pas est-ce qu'Allah va lui faire miséricorde ou pas. Tu ne peux pas confirmer, tu ne peux pas. Donc, mais les compagnons, ceux les 1400, quand tu dis radiallahu anhum, c'est que Allah le dit dans le Coran Karim, parce que tu ne fais que confirmer ce que Allah a dit dans le Coran Karim. D'accord? Donc Allah est satisfait d'eux. Bay'atul Ridwan. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu la mort de Uthman, il a dit la nabrahu hatta nunajiz al-qawm. Nous ne quittons pas cet endroit sans attaquer et faire la guerre avec ces gens-là. Et il donne sa main et c'était sous un arbre. Un arbre, un grand arbre. D'accord? Et cet arbre-là, c'est le seul arbre cité dans le Coran Karim, subhanallah. Un arbre de terre, de la terre, cité dans le Coran Karim. Il yubay'unaka tahta al-shajara. Il yubay'unaka tahta al-shajara. Quelle shajara? Mais la shajara. D'accord?
Il s'appelle Shajara Tarredouane.
Shajara Tarredouane. Et qui est resté un certain nombre d'années. Le problème, c'est que les compagnons qui venaient après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui venaient de la Mecque, de Médine pour aller à la Mecque, ils passaient par cet endroit. Ils passaient par cet endroit exprès. Certains pour aller voir et dire, ah, c'est ici que c'est cet arbre dont Allah parle dans le Coran Karim. Et Omar al-Khattab, il a vu que les gens commencent petit à petit à s'attacher à cet arbre-là. Ah, il y en a qui, au lieu, parce que la Mecque c'est direct, il faut faire un détour pour aller à l'Hudaybiyah. Et les gens maintenant, ils commencent petit à petit, ça devient comme une station obligatoire. Comme ça fait partie des rites du Hajj. Un tout petit peu. Omar al-Khattab, il a eu peur. Il a dit, coupez-la. Et à l'époque, les compagnons, Saïd ibn al-Musayyib, il dit, Saïd ibn al-Musayyib, son père c'était un compagnon. Et quand tu lui as demandé, est-ce que tu connais l'arbre, son père, il faisait partie des gens. Il a dit, non, je ne le connais pas. Et Saïd ibn al-Musayyib, il dit, mon père était là, il connaît pas, il n'était pas au courant, il n'a pas gardé en tête, dans sa mémoire, exactement l'arbre. Il y avait beaucoup d'arbres, c'était... Et vous dites que cet arbre-là, c'est exactement celui-là. Donc Saïd ibn al-Musayyib, il remettait en question le fait que l'arbre soit un arbre désigné. Il croyait que les gens visitaient un arbre, mais qui n'était pas le bon, qui n'était pas le vrai. Et donc, en réalité, on n'avait même pas à visiter cet arbre-là. Même si c'est un arbre cité dans le Coran Karim, mais ce n'est pas une raison. Et ça, c'est quelque chose de bien, de se protéger de toutes les shirkiyat. Hein. On peut tomber dans le shirk et on peut vénérer des choses, alors que... exactement, parce que ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner d'importance aux objets... Hein? Non, c'est, par exemple,
comme
Ghar Hira. On le visite. Ghar Hira, on le visite. C'est même pas interdit, c'est un rappel. D'accord? Mais, c'est pas religieux. Il n'y a pas de. on le visite par curiosité.
C'est historique.
C'est historique. Par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Le Hajar al-Aswad, exactement. Hajar al-Aswad, alors là, non. Hajar al-Aswad, on le fait parce que c'est une adoration. C'est une adoration. Quand tu embrasses le Hajar al-Aswad, tu adores Allah parce que ça fait partie de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si on ne connaît pas le sens, mais on le fait.
Il a pris la sauce.
Même par exemple, pourquoi tu fais 7 fois le tour de la Kaaba? Pourquoi tu jettes 7 pierres? Et pourquoi tu jettes 7 pierres? Un ici, et après tu marches un tout petit peu, et tu jettes 7 pierres ici. 7. On connaît l'histoire de Iblis et de Ibrahim. Mais pourquoi 7? Allahu a'lam. Tu ne peux pas dire. Et là, ça fait partie de notre foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit 7, on fait 7. Si le prophète avait dit 9, on l'aurait fait 9. Mais ça, c'est la foi. Ça, c'est le fait de dire, c'est comme ça qu'Allah m'a demandé, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire comme il
dit.
Al-Hajar al-Aswad, je sais que tu es une pierre, mais j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire et j'ai fait. سمعنا وطعنا بارك الله فيك prophète صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله il est devenu aveugle à la fin alors qu'il était jeune à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم petit jeune on a raconté son histoire quand il s'est marié prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit il s'est marié avec une femme âgée prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Jabir pourquoi tu ne peux pas marier avec une jeune comme toi. Donc, maintenant il est devenu vieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort il y a des dizaines d'années. Il dit qala lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ce jour-là, après le bay'a, regardez, antum khayru ahli al-ard. Vous êtes là, 1400, les meilleurs humains sur terre. Ça, c'est une shahada. Ah, c'est un témoignage énorme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et nous étions 1400 personnes. Jabir, il dit, et si j'avais la vue, je vous aurais montré l'arbre. Parce que Jabir se souvient bien de l'arbre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala révèle, après cet événement, bien sûr, dans Surat al-Fatih. Surat al-Fatih, elle a été révélée quand? Au retour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, on quitte, et on revient à la Mecque. Et là, je vais vous raconter ça après. Et sur le retour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrête sur sa chamelle. Et après, on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, on reconnaît quand le prophète reçoit la révélation. Ils ont reconnu. Et après, le prophète parle, il dit, voilà ce que Allah m'a révélé. Inna fatahna laka fatham mubina. Et à la fin de cette sourate, laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأثابهم فتحا قريبا فأثابهم فتحا قريبا الله parle de فأنزل السكينة عليهم الله donne السكينة وأثابهم فتحا قريبا لا le deuxième فتح c'est ça le deuxième فتح وأثابهم فتحا قريبا quel فتح là. C'est le deuxième. Mais inna fatahna laka fatahan mubina. Quel fatah? C'est là, c'est la négociation. C'est le pacte de l'Hudaybiyah. C'est le fait que il y a la paix entre les musulmans et les Mécois. Oui.
Ça veut dire que le fatah dans le Coran, initialement c'est le même mais le fatah mubina, c'est la libération de la Mecque?
Non. Le fatah mubina, c'est l'Hudaybiyah. D'accord. Le Fath al-Mubin, c'est le pacte qui a été signé entre les musulmans. Et on va expliquer pourquoi Allah l'appelle Fath al-Mubin.
Allah, il dit pas que le domaine d'être, c'est une victoire.
Non,
c'est...
Yawm al-Furqan. Allah l'appelle Yawm al-Furqan, le discernement. Badr s'est appelé Yawm al-Furqan. Il n'est pas Fath. Pour Badr, il n'y a pas l'utilisation du nom Fath. D'accord. Donc, cet arbre a été coupé. Et personne ne se souvient de. Parce que, comme on a dit, il ne voulait pas l'Afrique. Tariq ibn Abdul Rahman dit, je suis parti au Hajj Et je suis passé par des gens faire la prière à un endroit. Il dit, c'est quoi cette mosquée-là? On lui a dit, ah ben c'est l'arbre où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le pacte pour ses compagnons. Fa'ataytu Sa'id ibn al-Musayyib. Je suis parti voir Sa'id ibn al-Musayyib, fa'akhbartu. Fa'qala Sa'id, haddathani abi, annahu kana fi man baya'a Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, tahta al-shajar. قال فلما كان العام المقبل نسيناها. L'année d'après, on a oublié l'endroit exact de l'arbre. فلم نقدر عليها. ثم قال سعيد إن أصحاب محمد لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم من أصحاب محمد. Vous pouvez pas avoir plus de connaissances que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez ce qu'il a fait. Donc il a mis sa main. Et tous les compagnons, un par un, 1400, viennent passer devant le prophète, ils mettent leur main droite pour donner allégeance au baï, au kaya Rasulallah. Je te donne allégeance à Rasulallah sur l'engagement, hein, même s'il faut mourir, fils et bililah pour eux.
C'est les compagnons de Médine. Hein? C'est les gens de Médine.
Tout le monde, 1400. Les Mécois, les Médinois, tout le monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin, quand il a fini, Uthman n'est pas là, n'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis sa main gauche sur sa main droite. Il a dit « Hadihi yadu Uthman ».« Hadihi yadu Uthman ». Uthman, s'il est vivant, voilà aussi son pacte. Oh, lui aussi participe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il représente Uthman. Ça dit beaucoup sur l'amour qu'il avait pour Uthman. S'il est mort, il est mort. Mais s'il est vivant, lui aussi, il a fait le bay'a. Et vous savez, subhanallah,
ils sont Uthman.
Oui, exactement, subhanallah. Au moment où le prophète a mis sa main sur la main gauche sur la main droite, dit Hadihi yadu Uthman. Uthman, il était à la main, il a senti quelque chose sur sa main. Par là.
Par télépathie.
Télépathie, bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, regardez les détracteurs de Uthman. Uthman, quand il est devenu calife, certaines personnes se sont insurgées contre Uthman. Et vous savez qu'est-ce qu'on lui reprochait à Uthman? On lui disait, bah, t'as pas participé à la bay'at, tu ne fais pas partie des 1400. Hein? Toi, tu ne rentres pas dans radiyallahu anhu, tu n'étais pas là. Allah. Regardez comment les. Hein? Comme les esprits, quand ils sont tordus, c'est tordu. Hein. Tu ne peux rien faire. Quand quelqu'un est à gauche, il est à gauche. Il n'y a pas de. Le prophète, il a mis sa propre main, il a dit ça. Voilà, Uthman. C'est peut-être mieux que la présence physique de Uthman.
Bien sûr.
C'est mieux que la présence physique de Uthman. Oui.
Ces femmes qui l'accompagnent.
Oui.
Et c'était Oumou Salama du coup qui l'avait accompagné.
Oui, tout à fait.
Les femmes aussi ont porté à l'égard.
Je me posais la question tout à l'heure. Quand j'ai dit la main, je me posais aussi la question. Je crois pas qu'il y avait. Je ne sais pas combien de femmes ont participé à cette Umrah. Il y en avait certainement. Mais généralement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prend pas l'engagement physique. C'est-à-dire pas le. Oui, c'était où il mettait quelque chose sur la main, et les femmes, un tissu, ou verbalement aussi. Il y a les deux. Il y a cette question de tissu, il y a aussi question de verbal. Des femmes, verbalement, dans le. Mais on va chercher pour en savoir, Charles. Donc, Uthman, bien sûr, alhamdoulilah, était vivant. Et il revient. Quraysh, ils l'ont gardé 2-3 jours, ils l'ont relâché. Il arrive vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, donc il n'y avait pas de raison pour déclarer la guerre ou pour s'attaquer à la Mecque. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Uthman est venu, Quraysh a envoyé, juste après l'arrivée de Uthman, le plus grand négociateur de Quraysh. Et celui qui va tout conclure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a vu, il a dit, qui c'est? Quraysh, j'ai dit, c'est bon, on va négocier maintenant. Vrai. Mais on a des conditions. Et qui arrive? Qui connaît le nom du grand négociateur? Suhayl ibn Amr. Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr. Son nom s'appelle Suhail. Ça vous rappelle quoi? Sahel. Sahel. Sahel, c'est quoi Sahel? C'est facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait les noms, les bouchra. Fa'alul khayr. Fa'alul khayr. Yatafa'alu bil khayr. Il a dit qui est la personne que Quraysh a envoyée? On lui a dit As-Suhail ibn Amr. Il dit Sahoulatla. Hein? Puisque c'est Suhail, ça va être facile. On va conclure quelque chose. On va conclure. Donc son nom, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris juste du nom que ça va être des négociations faciles et qu'on va conclure quelque chose. Ça c'est le. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne la parole à Suhail. Fa'atar, c'était un homme de parole. Suhail, c'est parmi les gens, quand il parle, c'est un orateur. C'est quelqu'un qui parle très très bien. D'accord ? Omar al-Khattab était étonné. Parce que Suhail, il défend Quraysh, bien sûr. Il défend Quraysh. Il défend les intérêts de Quraysh. De l'armée de Quraysh. Et il a très très bien parlé. Et Omar, il était énervé quand il l'a entendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit discrètement. Même après, il dit à Omar, je t'ai vu énervé quand. Mais peut-être, un jour, tu vas l'entendre parler et tu vas être content. Et oui. Et ça va se passer quelques années après. Presque 4 ans ou 5 ans après, Omar il va entendre parler Suhail et il va être content. Parce que Suhail va devenir musulman. Ce Suhail-là, c'est parmi les hommes les plus sages. Suhail va devenir musulman et il va défendre l'islam d'une manière extraordinaire. Quand est-ce que c'est quand les Mécois, quand le prophète est mort, dans toutes les tribus autour de Médine, ils sont revenus sur leurs pas. Ils ont quitté l'islam. Beaucoup d'autres tribus ont quitté l'islam. Et Quraysh, il y a eu à la Mecque un début de rébellion contre Abu Bakr Siddiq. Et qui a pris la parole? La Suhail ibn Amr à la Mecque. Qui a pris la parole à Médine? C'est Abu Bakr Siddiq. Mais à la Mecque, il n'y avait personne. Suhail ibn Amr s'est mis devant la Kaaba. Il a fait un discours parmi les plus magnifiques pour soutenir Abu Bakr. Et Omar a entendu parler. Il a dit, ah, ça c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit il y a quelques années. Que un jour, il va parler, il va dire des choses vraies et des choses justes. Donc là, Suhail, il commence à négocier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il a accepté toutes les conditions. Suhail, il est venu avec des conditions qui n'étaient pas négociables. C'est quoi? La première condition, c'est que les musulmans cette année ne font pas la Omra. Ils doivent revenir à Médine. Ça, c'est la première condition. L'année prochaine, les Mécois quitteront la Mecque complètement. Ils laissent la Mecque vide. Parce qu'on ne veut pas rester là où vous êtes. En quelque sorte, les musulmans et les autres ne doivent pas se mélanger. On quitte la Mecque et on vous laisse la Mecque 3 jours. Vous faites votre Umrah et vous sortez de la Mecque. Donc la première condition, c'est que vous ne faites pas la Umrah cette année. La deuxième, la solution qu'on propose, c'est l'année prochaine. Donc on expliquera tout ça, inshallah, le vendredi prochain, l'Innillah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.